Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le gouvernement maintient toutes les restrictions sanitaires et accélère la vaccination. Objectif 1 million de personnes vaccinées pour la fin janvier. Jusque-là, les retards s'expliquent, c'est ce qu'a dit hier soir le Premier ministre, verbatim à suivre. Nous interrogerons ensuite une représentante du personnel pour la fonction publique, alors que les arrêts de travail à cause du Covid-19 seront simplifiés en fin de semaine. Boeing doit payer 2,5 milliards de dollars à l'État américain, accusé de fraude. L'avionneur évite ainsi les poursuites. Et puis au Liban, une statue du général Soleimani crée la polémique. C'est ce que nous dira notre correspondant à Beyrouth dans moins de 10 minutes. Il n'est pas encore question d'assouplir les règles sanitaires en vigueur. Voici le message qu'ont délivré hier soir le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Le couvre-feu à partir de 20h reste donc en vigueur au moins jusqu'au 20 janvier. Couvre-feu avancé à 18h pour 15 départements français et peut-être 10 de plus, on le saura dans la journée. La vaccination quant à elle sera accélérée avec l'entrée dans le dispositif des plus de 75 ans à partir du 18 janvier, c'est-à-dire dans 10 jours. Pour l'instant, oui, la France est assez lente en matière de vaccination, mais c'est normal. En tout cas, si l'on en croit le Premier ministre Stéphane Robert.
C'est vrai, a reconnu le Premier ministre hier soir, que la campagne de vaccination en France a démarré plus lentement que partout ailleurs. Et il s'en est expliqué par le choix qui a été fait de vacciner d'abord les plus fragiles, notamment dans les EHPAD, les maisons de retraite, et de recueillir le consentement des intéressés.
Ce choix des EHPAD explique très largement le démarrage très progressif des premiers jours. Chacun peut en effet entendre qu'on ne recueille pas le consentement d'une personne de 90 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, comme on le ferait pour un jeune de 20 ans. Nous voulons faire les choses bien, dans le respect de ces personnes, en présence de leur médecin traitant avec l'accord de leur famille.
Pour autant, il avoue avoir entendu les critiques et les attentes.
Oui, en effet, comme l'a souhaité le président de la République, nous devons gagner du temps et aller plus vite.
C'est la raison pour laquelle les soignants de plus de 50 ans peuvent désormais également se faire vacciner. Ce sera aussi le cas des plus de 75 ans qui ne résident pas en EHPAD à partir du 18 janvier. Des centres seront également ouverts pour préparer l'extension de la vaccination à l'ensemble de la population à partir du printemps. Mais Jean Castex a tout de même enjoint les plus impatients à modérer leurs ardeurs.
La vaccination est devenue la priorité numéro un de l'action du gouvernement. Nous sommes tous convaincus que c'est la vaccination la plus large, la plus massive et la plus rapide qui nous permettra de sortir de la crise. Ne confondons pas, néanmoins, vitesse et précipitation.
Il y a quoi qu'il arrive un rythme à respecter, a encore dit le Premier ministre, qui est celui de la production industrielle du vaccin. Et ce rythme devrait permettre de vacciner en France 1 million de personnes d'ici la fin du mois de janvier, selon l'objectif fixé hier soir.
Autre annonce hier attendue et confirmée, la fermeture prolongée des lieux culturels au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Fermeture aussi jusqu'à la mi-février au mieux des bars et des restaurants. Et puis pour les salariés touchés par le Covid-19 ou cas contact, une simplification est avancée. Un arrêt maladie sans jours de carence, c'est-à-dire sans journées non payées. Il suffira de se signaler à partir de dimanche sur le site de l'assurance maladie. Une nouvelle qui s'applique au secteur public comme au secteur privé et qui est saluée par Mylène Jacquot, la secrétaire générale de la CFDT Fonction publique.
Dans la période, en fait, ça va permettre à des agents qui sont soit cas contact, soit malades, de vraiment respecter les mesures qui sont recommandées, c'est-à-dire faire le test et s'isoler. C'est donc une mesure qui va permettre de lutter plus efficacement contre l'épidémie et surtout sans pénaliser les agents qui seront touchés, qu'ils soient malades ou qu'ils soient cas contact. Parce que ce qu'on observait et ce sur quoi on appelait l'attention du gouvernement et de l'ensemble des employeurs depuis maintenant plusieurs semaines, c'est que des collègues cas contact ou malades ne se déclaraient pas et continuaient d'aller travailler. Je pense notamment aux malades du Covid qui étaient asymptomatiques ou peu symptomatiques. Et donc, on avait un vrai risque de propagation et du coup, un risque qui concernait à la fois les collègues et aussi les usagers ou les clients pour le secteur privé.
Des propos recueillis par Anne-Laure Jumet. Pas de changement en revanche dans les écoles. Pour l'instant, le ministère de l'Éducation nationale n'envisage pas d'y renforcer le protocole sanitaire. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, se rendra cet après-midi dans les Landes. C'est le département le plus touché en France par la grippe aviaire. 119 foyers recensés sur les 124 en France. Ce chiffre a doublé en une semaine. Il y a 25 ans, très exactement, François Mitterrand s'éteignait à Paris à l'âge de 79 ans. Emmanuel Macron va lui rendre hommage en fin de matinée tout à l'heure à Jarnac en Charente. Le chef de l'État devrait se recueillir devant le caveau familial avant de visiter sa maison natale. Quel héritage de François Mitterrand ? Sophie Delpont a posé la question pour France Culture à Mathias Bernard. Il est professeur d'histoire contemporaine, auteur de l'ouvrage « Les années Mitterrand, du changement socialiste au tournant libéral ». Voici donc sa réponse.
La première mesure, c'est l'abolition de la peine de mort, qui était effectivement, dès septembre 1981, l'un des premiers gestes politiques de son premier septennat. Et c'est une décision forte sur laquelle aucune majorité suivante n'est revenue. Tout ce qui relève, on va dire, du champ des libertés publiques, les radios libres, je dirais, la fin aussi du monopole d'État sur la télévision, etc. Enfin bon, notamment donc dans le secteur des communications, mais plus largement dans le secteur des libertés publiques aussi, la dépénalisation de l'homosexualité également. Et puis, je crois que le troisième héritage important de François Mitterrand encore aujourd'hui, c'est bien sûr la relance de la construction européenne. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les deux septennats de François Mitterrand, avec la signature de l'acte unique européen en 85, puis avec le traité de Maastricht, évidemment, en 92. C'est vraiment sous ces deux septennats qu'a émergé l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est plus simplement une communauté économique européenne, mais qui est quand même effectivement un espace commun et partagé.
Et pour revenir sur les années Mitterrand, l'un de ses anciens ministres, Paul Quilès, sera l'invité du journal de midi et demi aujourd'hui sur France Culture. Une pénalité de 2,5 milliards de dollars. Voici ce qu'a accepté de payer Boeing. C'est le résultat de deux années d'enquête sur les deux accidents du 737 MAX qui, en 2018 et en 2019, ont provoqué la mort de 346 personnes. Hier, donc, pour la première fois, le constructeur a dû reconnaître qu'il avait délibérément trompé le régulateur américain sur les risques que son appareil faisait courir à tous ceux qui l'empruntaient. Explication de Pierre-Yves Dugas.
Voilà deux ans que Boeing fait l'objet d'investigations non seulement de la part du département de la justice, mais aussi de la part du département des transports et de plusieurs commissions du Congrès. L'avionneur est gravement mis en cause pour la manière dont il a conçu le 737 MAX, en minimisant les risques de certains choix techniques en vue d'obtenir rapidement le feu vert du régulateur fédéral de l'aviation civile. Au terme de l'accord passé par Boeing avec le département de la justice, Boeing reconnaît ses manquements frauduleux, admet avoir trompé le régulateur sur la sécurité du 737 MAX. Boeing va verser près d'1,8 milliard de dollars à ses clients. Les compagnies aériennes affectées par le scandale rajoutent 500 millions pour un fonds d'aide aux 346 victimes des deux accidents et paye une amende de 244 millions de dollars au titre d'une sanction pénale.
C'était Pierre-Yves Dugas à New York pour France Culture. Donald Trump promet une transition sans accroc le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche face à Joe Biden et il condamne les violences au Capitole de la part de ses partisans. Changement de ton donc de la part du président alors que le chef de la police du Capitole annonce qu'il démissionne et que l'on apprend ce matin la mort d'un policier au Capitole qui avait été blessé le 6 janvier. D'ailleurs, on en sait un peu plus ce matin sur le profil des militants pro-Trump qui se sont introduits au Capitole. C'est ce que nous dira notre correspondant à Washington dans le journal de 7h. Direction à présent le Liban où une statue sème la discorde, celle du général iranien Qassem Soleimani, tué le 3 janvier 2020 à Bagdad par une frappe de drone américain. C'était l'architecte de l'influence iranienne dans la région en général et au Liban en particulier via le Hezbollah, un parti milice que certains Libanais rejettent aujourd'hui. Mais une statue à l'effigie de Soleimani a tout de même été inaugurée cette semaine à Beyrouth. Explication d'Aurélien Colli.
Le buste est en bronze, il fait 3 mètres de haut, il trône au milieu d'un carrefour qui relie une rue déjà rebaptisée rue Soleimani et une voie rapide qui porte depuis longtemps le nom du fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini. Pour la municipalité du quartier, fief du Hezbollah, aucune provocation, mais un simple hommage. Hommage à un homme considéré comme un héros de la résistance à Israël et à l'Amérique, un allié fidèle du Liban qui était même à Beyrouth en 2006 lors de la dernière guerre contre l'État hébreu pour organiser le soutien iranien au Hezbollah libanais, mais dans un Liban en crise où la situation économique, sociale et politique, où les influences étrangères aussi ravivent les tensions communautaires, ces hommages ont surtout déclenché la colère des opposants au Hezbollah. Des portraits du général iranien installés le long des routes ont été décrochés ou brûlés. Des chrétiens phalangistes ont manifesté. L'armée s'est même positionnée dans certains quartiers chauds. Colère aussi sur les réseaux sociaux avec des mots dièses comme « Beyrouth est libre, l'Iran dehors » pour dénoncer l'occupation iranienne ou les tentatives d'altérer l'identité libanaise. Réplique aussi des internautes pro-Hezbollah et pro-iraniens. Derrière leur mot dièse, Soleimani est l'un des nôtres.
C'était Aurélien Colli. La grisaille sera omniprésente en France métropolitaine ce vendredi avec des températures froides, moins 9 ce matin à Bourg-Saint-Maurice, 0 à Paris et La Rochelle, 4 degrés à Marseille. Bonjour.